Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold on, everybody. Here it comes.
Spotzol, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 74, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, je discute avec Vincent Olivier. Vincent, c'est un baroudeur au long cours avec de nombreux voyages aux quatre coins du globe et qui, depuis 2 ans, s'est reconverti au bikepacking avec plus ou moins de succès, mais dernièrement avec beaucoup de succès. Et la semaine dernière, il a bouclé la Hungarian Divide en Hongrie, donc avec départ à Budapest, ville dans laquelle il vient d'emménager. Vincent revient pour nous sur la transition vélo-touring et course sur route vers le bikepacking et tous les aléas que cela comporte. Et au fil des épreuves, Vincent a fini par accumuler une expérience vraiment très très intéressante et enrichissante pour nous tous. Notamment sur la préparation et le soin apporté au matériel. Également, avant de lancer l'épisode, nous venons de créer notre page Patreon. Patreon, c'est un site où vous pouvez soutenir un artiste ou un podcast si vous le souhaitez. Ça marche sous forme d'abonnement mensuel avec éventuellement quelques avantages. Ce n'est pas spécialement de gaieté de cœur que je lance cela, mais la situation sanitaire et donc ma situation professionnelle est telle que je suis obligé de passer par un appel à contribution pour pouvoir continuer Spotzol. De plus, la nouvelle version de Spotzol demande davantage d'espace serveur, il faut aussi subvenir à ses dépenses. Le lien est dans les notes du podcast, jetez un œil et soutenez si vous trouvez ça cool. Et sans plus attendre, donc, Vincent Olivier.
Richard.
Vincent.
Oui, ça marche bien.
Ah, mais ça a l'air de bien fonctionner, en fait.
J'espère.
Ouais. Ouais, ça va quand même, je t'entends relativement bien. Bah alors, il faut quand même préciser où es-tu maintenant, parce que...
Eh ben, je me suis expatrié à Budapest, mais bon, j'ai passé ma première nuit dans mon appartement, donc ouais. C'est vraiment tout récent.
Super. T'es arrivé. T'es venu en vélo en plus, bougre.
Oui, c'est ça. C'est un long chemin pour venir ici et c'est une nouvelle vie qui commence.
Ouais. Ouais. Bah, tu vas nous raconter tout ça parce que t'en as beaucoup de choses. T'as beaucoup de choses à raconter, donc ça c'est vraiment cool. Et avant tout, j'aimerais te remercier parce que ça fait longtemps qu'on parle de faire un épisode ensemble. J'attendais que tu aies vraiment plein de choses à raconter. Et là, ça y est, on y est. Spotzol a bientôt 2 ans et toi, tu accompagnes aussi depuis 2 ans. Tu as partagé plein de récits. J'ai suivi toutes tes péripéties et si on peut dire tes tentatives en bikepacking. Parfois joyeuse, parfois un petit peu plus douloureuse. Et là, tu viens de boucler une Hungarian Divide avec un grand succès. Donc, merci et bravo pour commencer. Et maintenant, ouais, tu vas pouvoir te présenter, Vincent Olivier, un breton,
oui.
Un enfoiré de breton encore.
Et oui, si on est partout. Donc, je m'appelle Vincent Olivier, j'ai 42 ans, je suis, on va dire un baroudeur quand même, j'ai pas mal voyagé sur la planète, j'ai au moins roulé, je peux dire que j'ai roulé sur tous les continents, passionné de voyage à vélo, et récemment converti au bikepacking, alors pour plusieurs raisons, c'est vrai qu'après 40 ans, je me suis dit, bon, être sur la route, au milieu des voitures, ça devient... J'ai pas mal baroudé. On va essayer d'aller sur les chemins et d'y prendre du plaisir.
Bon, alors on va reprendre un petit peu tout ça depuis le début. Qu'est-ce qui t'a mené à Budapest, capitale de la Hongrie, comme chacun sait?
Bah, j'ai vécu une vie d'expatrié en Asie pendant 4-5 ans. Mmh. Je faisais du commerce en ligne. Et de retour en Europe, bon, j'étais, on va dire, brièvement prof de maths, enfin, pendant 2 années. Et là, je cherchais un nouveau challenge et puis une reconversion professionnelle aussi. Donc là, je m'oriente vers le web design.
Ouais.
Je vais lancer mon agence web. Et je me disais, bon, l'Europe, c'est pas mal, la qualité de vie est bien. Et quelle serait la meilleure solution pour moi, pour m'expatrier en Europe? Et finalement, bah, je me suis vite tourné vers Budapest, puisque c'est quand même une ville magnifique. Une position géographique intéressante en Europe, on peut voyager partout aussi. Mmh. Et puis la qualité de vie et un accès à la nature rapide aussi, ça c'est vraiment important pour moi. Ouais. J'aime bien habiter en ville, mais voilà, il faut décompresser avec des balades à vélo dans la nature, donc ça c'est intéressant.
Et les Hongroises?
Effectivement, oui. C'est...
Je me souviens de ton message.
J'ai pas encore eu le temps de m'y intéresser.
De plus près, si on veut
mais
dire.
C'est vrai que c'est un objectif de vie aussi, hein, de fonder une famille.
Bah, oui.
Toi, t'as une belle famille. Et c'est vrai que ça, c'est quand même quelque chose d'important, je trouve.
Mm. Oui, parce qu'on dit ça en rigolant, tu vois. Bah, à chaque épisode, on fait une petite allusion rigolote. Oui. Mais c'est quand même agréable.
Voilà.
Et
voilà. L'approche, oui, pour la quarantaine, voilà, ça y est, on commence à... Enfin, c'est vrai que ça me travaille un peu mal.
Ouais. Alors, un conseil, ne tarde pas. Trouve-en vite une et reproduis-toi au plus vite.
Ça fait partie du projet de vie, ouais.
Parce que 40 ans passés, on est moins, entre guillemets, vigoureux pour s'occuper des enfants. Et là, je t'avoue que le deuxième à 43 ans, je vois quand même la différence. Et il y a des jours où je regrette de ne pas m'être reproduit un petit peu plus tôt.
Ouais, bon, après, c'est des...
Mais bon, c'est ça va quand même. Mais je te dis, il y a des jours comme ça, parce qu'il y a des jours avec et des jours sans. Il y a un petit peu de fatigue parfois. Mais globalement, je ne regrette pas du tout, bien entendu. Comme t'es un enfoiré de Breton, tu étais basé où en Bretagne?
Je suis de Brest. J'ai passé mes 20 premières années de ma vie à Brest, mais du côté de, ouais, je suis Bigouden du côté de ma mère, et donc finalement, ouais, je suis retourné à mes origines dans le pays Bigouden à Pama, à côté d'un célèbre spot de surf qui s'appelle La Torche, qui aurait pu accueillir les Jeux Olympiques.
S'ils avaient lieu.
Voilà. Oui, enfin là, la décision était pour Tahiti. En même temps, ça permet de préserver le site quand même. Parce que c'est un site protégé, Natura 2000, et voir autant de gens débarquer, l'effervescence des Jeux Olympiques, c'est peut-être pas une si bonne idée finalement.
Donc autant envoyer ça à Tahiti.
Notre petit coin de nature en Bretagne.
Ouais. Ah bah rassurez-vous, je vais vous aider à la préserver, la nature bretonne.
Ouais, un peu comme les Corses.
Pareil, ne comptez pas sur moi. D'ailleurs, en passant, je sais pas si tu as vu passer ces temps-ci un compte Twitter parodique qui s'appelle Tourisme en Corse. C'est que des tweets parodiques qui disent en gros ne venez pas. Les incidents qu'il peut y avoir en Corse, incendie, surtout ne venez pas, restez chez vous.
J'y ai passé que 15 jours de bikepacking l'année dernière.
Oui.
C'est vrai, n'y allez pas, c'est vrai, je confirme.
Ouais. Moi j'y suis allé qu'une fois et vraiment 2 jours pour travailler à Ajaccio, j'ai trouvé ça sympa, mais bon. L'ambiance chevrotine dans les panneaux, j'ai moyennement apprécié.
Faut que tu prennes ton vélo. Tout est différent à vélo. Tu vois.
Ouais, je sais bien. Je sais que hors contexte, ça peut sembler bizarre, mais j'étais invité par la compagnie de CRS d'Ajaccio pour aller rouler avec eux. Et ça dit comme ça, c'est. Mais non. Il y a bien d'autres endroits à les découvrir, et tu le sais mieux que moi. T'as voyagé où, alors? Moi, je le sais, mais moi, j'aimerais bien que tu le dises à d'autres.
Ouais, j'ai d'abord voyagé avec mon sac à dos, donc c'était plutôt l'Australie, l'Asie, Dans un premier temps, après mon premier voyage à vélo, c'est l'Amérique du Sud. J'ai traversé l'Amérique du Sud, de l'Équateur jusqu'au nord de l'Argentine. J'ai pas été jusqu'à Ushuaia, mais bon, c'était vraiment le premier voyage, la première grosse expérience. C'était vraiment incroyable. Après, j'ai mis quelques temps à refaire des voyages à vélo, et puis depuis 2014, chaque année, je pars au moins 3-4 mois. Donc j'ai été au Maroc, en partant de Bretagne à chaque fois, le Maroc, l'Écosse, les îles Canaries, plus récemment l'Iran. Donc là c'était 8000 km pour aller en Iran, et c'était il y a 2 ans. Ouais. Et 2019, ça a été la bascule vers les épreuves bikepacking. Et donc passer du bike touring, comme on dit, donc le vélo chargé au maximum avec des sacoches, avec la version plus light, le bikepacking.
Et surtout le sac à dos pour toi, parce que je me souviens de tes photos en Amérique du Sud avec ton énorme sac à dos. J'ai pas vu celle d'Iran, mais je me souviens de celle d'Amérique du Sud.
Non, c'est manque de préparation et puis le débutant. On a tous été débutants.
Ouais, mais n'empêche que tu l'as fait quand même, parce que quand tu échangeais là jusqu'à récemment, tes projets de course et que les mecs te disaient non, le sac à dos c'est pas bien et que tu leur rétorquais j'ai fait l'Amérique du Sud avec, bah ça parlait beaucoup moins derrière.
En fait c'est ça, c'est l'autonomie. J'aime bien quand même être autonome, même sur les épreuves backpacking, quand j'ai pas d'objectif de temps, donc j'aime bien voilà le petit réchauffe pour faire le petit café le matin, avoir à son confort le
un petit matelas, confort quand même.
Matelas, duvet, la tente, là j'avais tout sur la Hungarian Divide.
Ton réveil matin.
Chacun aborde les épreuves différemment. Il y en a qui sont en version ultra light, couverture de survie. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont. Et puis chacun voit l'épreuve selon ses désirs.
Exactement. Comment s'est passée ta transition justement? Bon, on l'a dit brièvement, mais de ton point de vue, comment s'est passée la transition vers le cyclotourisme, le cyclo-voyage, à quelque chose de plus compétitif?
Ouais, j'ai fait aussi de la compétition sur route, vélo, et je cherchais à lier ça à l'aspect nature, un peu le challenge sportif, et même si j'ai pas d'objectif chronométré, cet engouement, cette émulation autour de, on regarde la position des autres. Ce qui a fait je pense que ce qui fait vraiment le succès des épreuves backpacking, c'est également le suivi sur les réseaux sociaux.
Oui.
Le tracker GPS qui permet de. Là, je vois même sur la Hungarian Divide, les gens n'étaient pas habitués. C'est la première édition, mais il y a eu des passionnés qui se levaient en même temps que nous pour voir si les petits points sur la carte bougeaient. J'ai des amis qui ont suivi ça. Qui me faisait même des rapports tous les jours, qui extrapolait sur les petits points, qui disait, je crois qu'il est en train de fatiguer devant, c'est bon, tu vas le rattraper.
Vas-y, mets la plaque.
C'est marrant l'engouement qu'il y a à suivre des petits points sur une carte.
C'est marrant.
Et puis les messages sur les réseaux sociaux, c'est génial.
Bon, du coup, ça répond pas à la question, comment s'est passée ta transition? Parce que toi, tu réponds à côté de la plaque, c'est ton côté prof de maths ou quoi?
Non. La transition, elle s'est plus ou moins bien passée. Mais première épreuve, la Gravel Trop Braise. J'avais préparé un vélo et puis c'était pas le bon.
Ouais.
Alors, le premier jour, ça s'est relativement bien passé. J'ai dû faire 230 km. Et le deuxième jour, j'avais pas trop confiance au vélo quand ça commençait à secouer méchamment, et donc j'ai fait une erreur de pilotage, je suis tombé, j'ai eu une grosse entorse au coude, enfin je pouvais plus bouger mon bras. Mais comme on dit, ne jamais abandonner la nuit, quoi, on va dire, quand toujours attendre le lendemain pour prendre la décision d'abandonner. Donc c'est ce que j'ai fait. Bon, j'ai passé une nuit de souffrance. Et puis le lendemain, oui, évidemment, j'ai arrêté. Donc, expérience un peu amère, surtout que ça se passait en Bretagne. C'est vraiment une belle épreuve, hein, Gravel Trop Braise.
Bien sûr. organisé par un immonde personnage, mais je sais que tu écoutes ça. Je sais qu'il écoute ce bougre et qu'il va dire
Non, mais bravo à lui d'avoir fini la French Divide l'année dernière quand même. Ça, franchement, là, il a prouvé que c'était pas seulement un organisateur, mais un sacré guerrier.
Et qui savait aussi changer les freins de son vélo en plein dans le massif central. Bravo.
Il s'est surfreiné avec les pieds. quand il n'y a plus de frein, il y a toujours une solution.
Ce qui est surtout impressionnant, c'est qu'il arrive à faire du vélo tout en faisant autant de live Facebook, quoi, parce qu'il passe quand même l'essentiel de son temps à raconter sa vie au lieu de pédaler. Et ça, c'est respectable. Hein.
Ah oui, si. C'est son côté médiatique. Il aime bien passer être la vedette.
Exactement.
Ouais, je suis un peu plus discret, moi, sur les épreuves. Ouais. Bon, ça m'empêche pas de faire un récit, de le publier sur le Spotzel.
Exactement, exactement. Vas-y, enchaîne sur la transition. On se moquera de Fred et de ton récit sur la Hougariane plus tard.
Bah après, j'ai fait une autre épreuve dans le sud, la baroudeuse.
Ouais.
Et donc là, par contre, c'était pas une chute qui m'a fait abandonner, c'est les maux de ventre. Donc l'estomac, ça c'est la, je pense que c'est la deuxième cause d'abandon après les accidents, les pépins mécaniques et les chutes. C'est l'estomac, c'est assez délicat et vraiment à bout de force. Donc j'ai abandonné deux épreuves sur. J'ai abandonné mes deux premières épreuves. Heureusement, j'en avais une troisième au programme en 2019. C'était la French Divide. Et là, tout s'est bien passé. J'ai apprécié chaque instant de cette épreuve. C'était vraiment incroyable. Pendant un peu plus de 12 jours, parcourir la France, la diagonale du vide. Tous ces petits villages, toutes ces régions que on ne pense pas vraiment lorsqu'on pense aux vacances en France.
Ouais.
Mais qui sont magnifiques. Et ça m'a. Là, j'ai vraiment. J'ai vraiment apprécié l'épreuve et je me suis dit que c'était vraiment ça que j'aimais faire. Donc, c'était parfait pour rebondir sur d'autres épreuves et se remotiver pour la Hungary Divide.
Je reviens sur ta baroudeuse, parce que je me souviens que pendant, je sais plus si c'est pendant l'épreuve, tu m'avais écrit en me disant « j'ai absolument pas de jambes ». J'ai quand même l'impression que sur les épreuves, tu te mettais un petit peu de pression et que tu as mis du temps à te détendre avec ça, à gérer l'enjeu, parce qu'il n'y en a pas. Mais j'avais l'impression que tu te mettais une grosse pression avant les épreuves et que t'as enfin accédé à un petit peu plus de sérénité. Et c'est ce qui t'a permis de déchirer la French Divide et puis là, la Hungarian Divide.
Pour moi, c'est vrai que l'expérience, c'est vraiment tout en bikepacking. C'est gérer ses émotions, son matériel, ses temps de pause, son sommeil. Et donc sur les premières épreuves, bien que je vienne du voyage à vélo, c'était complètement différent puisque là on a un départ groupé avec une centaine de participants. C'est pas tout à fait la même approche. Il y a cette pression c'est surtout de pas abandonner, quoi, de. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu qu'on a envie de bien faire. Surtout les premiers jours, elles sont importantes. Les premiers jours.
Pour toi qui viens du, comme tu l'as dit, et puis tu me l'avais dit également, tu viens du vélo sur route, donc tu as été un bon coureur. Tu as fait également du cyclo-camping, comme tu nous l'as expliqué. Comment se fait-il, selon toi, que la transition soit, entre guillemets, difficile et en quoi? C'est une forme de vélo vraiment très très spécifique et qui demande de l'expérience et une préparation minutieuse. Je veux dire par là, il suffit pas d'avoir roulé des milliers de kilomètres en Asie ou alors d'avoir roulé comme une bourrique avec un dossard. En quoi la pratique du bikepacking est vraiment très spécifique Et on le voit avec des tentatives d'ex-pro qui se sont ramassées également. Christian Meyer à l'Atlas Mountain Race, il a fait 300 km et il a fini avec le cul en vrac alors qu'il a fait des top 10 sur le Tour d'Italie.
J'ai un copain, Clément Mahé, qui s'est converti récemment au biking man. Ses trois premières tentatives ont été difficiles. La gestion de la chaleur, les problèmes d'estomac, les problèmes mécaniques, il a eu en Corse, il a eu des problèmes mécaniques. Donc c'est vraiment un tout. Il faut
apprendre l'autonomie.
Une bonne préparation, ça, c'est indispensable. Mais après, une fois que le départ est lancé, c'est vraiment se concentrer sur son pédalage, ses temps de pause, son alimentation. Certains disent que c'est James Hayden, je crois, qui dit ça. C'est une épreuve de. Voilà, c'est le vélo, ça, c'est qu'une infime partie de.
Ouais.
De l'épreuve, c'est la plus grande partie, c'est manger. Voilà, c'est de trouver.
Et soigner ses fesses.
Ouais, c'est vrai que. Ah, on a toujours des petits bobos, des petites tendinites. Non, il y a beaucoup de choses à gérer. Ouais.
Quand tu parles de préparation, et là, je suis désolé, je t'ai coupé et t'allais dire expérience. Tu parles de préparation, on voit qu'il y a les petits bobos, il y a les problèmes mécaniques, tous ces trucs-là. Est-ce que ça veut dire que dans la préparation, c'est pas juste aller rouler, et là, je vais me faire un peu l'avocat du diable, et je vais être un petit peu méchant, mais est-ce que c'est pas... juste aller rouler une fois par semaine, mais aussi rouler un petit peu plus, se mettre dans des situations difficiles pour avoir de la casse matérielle à la maison, pour savoir gérer son matériel en cas de pépin. C'est l'impression que j'en ai de temps en temps, c'est que beaucoup se concentrent sur l'aspect roulage, ne roulent pas assez en plus déjà, mais en plus n'arrivent pas à gérer l'imprévisible avec le matériel, avec les crevaisons, avec une casse matérielle diverse. Tu en penses quoi, toi ?
Après, c'est pas non plus tout le temps facile, parce que moi, j'ai préparé un vélo spécifiquement pour la French Divide, et tout s'est bien passé, parce que j'ai vraiment pris le temps de le préparer. Mon VTT 4 carbone, pneu tubeless, j'ai pas touché à la pompe ni aux outils pendant 2300 km. Et tout le monde n'a pas non plus les moyens d'aller tester du matériel. Il y a des contraintes de temps, contraintes budgétaires. Et donc c'est assez difficile. Idéalement, il faudrait préparer un vélo pour chaque épreuve, parce que épreuve a ses particularités.
Préparer justement sur, comme disait Patrick la semaine dernière, au moins à la base d'avoir un vélo bien entretenu avec quelques pièces neuves, et comme tu viens de le dire, avec au moins du tubeless, c'est pas non plus, c'est pas non plus un investissement financier et en temps.
Le tubeless, faut le tester, c'est ça, faut tout tester à l'entraînement.
Il faut l'éprouver un paquet de temps avant de se dire pas de problème.
C'est ça, faut faire un. Faut faire des 200, des 300 km dans le froid, sous la pluie.
De la caillasse. Faut crever.
Ouais, c'est ça.
Faut crever aussi en tubeless.
C'est ça.
Si tu crèves pas, comment tu répares?
Avoir accès à ces mèches, rapidement. Si on crève, la frontale, faut la avec une crevaison nocturne. C'est pareil, c'est ça. C'est s'habituer à rouler de nuit. Il faut vraiment toutes les conditions, rouler dans toutes les conditions possibles. Donc ça se prépare dès le mois de décembre, on va dire. C'est ça. Faut se construire son calendrier de préparation physique et puis aussi de test, d'aller tester son matériel sur des week-ends, 3-4 jours. Voilà.
Ouais, des week-ends déjà. Sur un week-end, tu vois. Ouais. Cet été, j'ai pas mal échangé avec Philippe P. de Montreuil, il se reconnaîtra, et il préparait il voulait faire un premier week-end, et petit à petit, tu vois, au fil des échanges, il me disait, j'ai ça comme contrainte, je vais pas pouvoir partir aussi longtemps, j'ai ça, que les petits soucis de la vie quotidienne, et finalement, il a fait un truc vraiment très court, mais au retour, il m'a dit, même si j'ai fait que, je sais plus, 250 km, je crois, ou un petit peu moins, sur 2 jours, j'ai appris plein de trucs. Donc, il n'y a pas non plus besoin de partir hyper longtemps ou de faire des centaines de kilomètres. Même sur un week-end et une distance modérée, on apprend déjà beaucoup. Donc en le reproduisant plusieurs fois dans l'année, eh ben on finit par acquérir une expérience vraiment intéressante. Tu en penses quoi ?
Oui, c'est vrai. Mais par contre, je tiens à préciser que des sorties de 6 heures, à partir de, l'endurance commence vraiment à partir de 6 heures. Et le test matériel n'a pas la même valeur. Si vous faites 6 heures, vous considérez « Ah, ma position est confortable », attendez 10 heures, 10 heures de vélo dans la journée et plus. Et là, vous aurez une autre idée de votre du confort et vous pourrez faire des choix matériels plus en adéquation avec la durée des épreuves bikepacking. 6 heures, ça suffit pas. Il faut 10 heures et plus. Donc ça, c'est aussi important.
Ouais. De faire vraiment de 6 heures, oui, ça commence à être une bonne sortie, mais on ne juge pas.
Il faut aller au-delà. Ouais.
On peut pas le faire tout le temps, mais enfin, évidemment. balance un lieu commun. On peut pas le faire tout le temps. Génial. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Mais tu préfères quand tu prépares un truc, tu préfères faire plusieurs jours avec 6, 8, 10 heures ou deux grosses journées ou au contraire plusieurs jours avec des durées plus modérées. Qu'est-ce que tu préfères toi ? Oh ! Tu m'entends ?
Ah, c'est bête, ça marchait bien.
Ah oui, c'est dommage, ça marchait bien. T'as entendu la question ou pas ?
Non.
Non ? Mince. C'était, pour une fois, c'était une question hyper intéressante et je ne m'en souviens plus. Bah voilà.
C'est vrai ?
Mais si.
Je vais essayer d'y répondre quand même.
toi, tu préfères enchaîner les jours avec des distances et des durées modérées, entre, disons, 6 et 10 heures, ou au contraire, te faire des grosses quiches de 10 heures et plus ?
Non, mais j'aime bien rouler du lever du jour à la tombée de la nuit. Mais l'hiver, c'est plus facile, on va dire, oui. C'est ça.
Donc, ça ne fait pas des grandes sorties l'hiver.
Non. Mais moi, j'aime bien dormir. Tu peux le savoir, c'est moi qui dormais le plus sur la French Divide, oui. 8 heures par nuit. Et ça ne m'a pas empêché de la boucler en un peu plus de 12 jours. Le sommeil, bon, après, il faudrait que j'essaye de dormir un peu moins. Mais pour l'instant, ça me va.
Le mec qui dort plus qu'il ne roule.
Ah oui, j'ai 6 jours de roulage et 6 jours de pause en tout sur la French Divide.
C'est bien. Ça veut dire que ça te laisse une marge de progression.
J'étais performant. Hein. J'étais le troisième plus rapide sur la French Divide en roulant 2 jours. Hein.
Et ça veut dire que tu n'aimes pas rouler de nuit ou tu préfères dormir?
Justement, c'est... Je roule pas de nuit parce que j'ai pas l'expérience. Il me faut encore un peu de temps pour acquérir cette expérience.
T'es pas le seul dans ce cas-là. On voit souvent passer dans les discussions. Il y a une petite appréhension au fait de rouler la nuit, de rouler tard dans la nuit ou de partir tôt. Pas seulement sur les épreuves, mais bon, de toute façon, si c'est sur une épreuve, il est déjà trop tard. Mais le simple fait de se préparer en partant tôt ou en partant tard le soir, qu'est-ce qui te bloque là-dedans ?
En fait,
t'as peur des animaux ?
Non. Je peux rouler la nuit, mais en fait, si j'arrête vers une heure du matin, on va dire, j'ai aucune garantie d'avoir un bon sommeil, en fait. C'est pas parce qu'on roule la nuit qu'on se sent fatigué. Dès qu'on va se poser, il faudrait pouvoir s'endormir immédiatement, un bon sommeil réparateur. Et en fait, c'est pas une garantie du tout. Donc, je préfère avoir un rythme plus régulier, rouler jusqu'à 10h, 11h, et me réveiller vers 5h, 6h, ça dépend des périodes de l'année. Mais avoir un rythme plus régulier, ça me garantit un sommeil, un meilleur sommeil.
Est-ce que tu vas tester un petit peu dans les mois à venir? Alors peut-être pas dans les mois à venir parce que je crois que l'hiver hongrois est un peu rude.
Ouais.
Mais t'as prévu quand même d'essayer de diminuer le sommeil pour voir, simplement par expérience, pour voir ce que ça donne sur toi.
Pour moi, j'ai un ratio, on va dire, ça c'est dans ma tête, c'est le ratio parfait, c'est 15 heures de vélo, 3 heures de pause réparties dans la journée et 6 heures de sommeil. C'est ce qu'il faudrait que j'atteigne. Et bah, ça dépend des épreuves auxquelles je vais participer. En 2021, on verra. Ouais, il y a l'Atlas Mountain Race qui m'intéresse. Il y a le Tour Divide qui est dans ma tête. Et ça, c'est vraiment un engagement. On va dire, c'est un sacré commitment, comme ils disent en anglais. Hein. Ouais. C'est s'engager financièrement, et puis au niveau de l'effort. Mais c'est surtout, je pense que c'est pas physiquement que c'est vraiment dur, c'est mentalement passer 3 semaines sur un vélo.
Ouais.
Là, je vois la Hungarian Divide, j'ai terminé en 6 jours et demi et voilà, j'ai bien récupéré. Une semaine d'effort, on récupère bien. On est fort dans sa tête, on reste fort dans sa tête, mais là, après 2 semaines, et là, la 3e semaine, je pense que ça va être vraiment très très dur. Surtout si on a des petits pépins physiques qui apparaissent.
Surtout que toi, tu auras quasiment un an d'agence web au compteur. Si ça marche bien, tu n'auras peut-être pas envie de te barrer un mois aux États-Unis et laisser ta boîte à l'abandon. Peut-être que tu auras pas mal de travail, ce que je te souhaite.
Ouais.
Et tu ne pourras peut-être pas avoir le loisir de partir un mois.
Bah, de toute façon, c'est une épreuve qu'on fait une fois dans sa vie. Et puis... l'âge moyen des partants, j'ai encore le temps, hein, j'ai largement le temps. Je pense que c'est pas une épreuve qu'on fait forcément à 30 ans, mais plutôt à 45.
Ne tarde pas, parce que si après tu te reproduis, tu pourras pas non plus partir un mois, enfin en tout cas pas tout de suite, ça attendra un peu, donc ne tarde pas quand même.
Je vais voir. J'ai pas encore décidé pour 2021, mais en plus avec la situation de 2020, tous les grands noms seront au départ, j'imagine, en 2021. Ils auront fin de kilomètres.
Même pour l'Atlas, hein, à chaque interview, j'aimerais bien faire l'Atlas. Je pense qu'il y aura pas de la place pour tout le monde. Je dois appeler Nelson cette semaine et je vais essayer de négocier ma place, tout simplement.
Montre ton CV de baroudeur.
J'ai rien à montrer, il est inexistant, donc ça va être vite fait.
Bon, ça va être ton CV de.
Ouais, d'influenceur Instagram.
Voilà, c'est ça. Il est bien rempli celui-là.
Oui, ça va. Je suis meilleur sur Instagram qu'à vélo, c'est clair. Si tu me parlais de la Hungarian Divide plutôt.
Ah oui.
C'est intéressant. Et avant ça, dis-moi pourquoi tu pars à chaque fois de Bretagne. Tu peux pas prendre l'avion comme tout le monde?
Non.
T'as peur des avions?
Il y a deux réponses à ça. Soit je trouve un billet d'avion tellement pas cher, genre Agadir, Nantes ou Agadir, ou là c'était Glasgow-Brest, je crois. Donc à chaque fois, j'achète un billet d'avion, elle est simple. Et il faut que j'aille. Finalement, mon voyage à vélo, c'est le but, c'est d'aller prendre l'avion, quoi. Et il me faut 4 mois pour ça, parfois. Comme quand je suis descendu au Maroc, j'avais mon billet d'avion à Agadir-Nantes et il m'a fallu 4 mois pour aller prendre l'avion et rentrer. Donc c'est la réponse, la réponse comique, on va dire. Mais sinon, c'est bien. C'est symboliquement, j'habite au bout des terres, c'est le Finistère, la définition du Finistère, la fin des terres et partir du là où j'habite, c'est pas un mar, il y a un phare. C'est le phare qui s'appelle le phare d'Eckmühl, et partir symboliquement de ce phare pour aller à la découverte du monde, c'est beau pour moi.
partir du fond et d'aller de remonter un petit peu le fil du monde.
Ouais, c'est ça, c'est partir comme les navigateurs le faisaient, sauf que bon, moi, comme j'ai le mal de mer, je prends pas la mer, je prends mon vélo. Voilà.
T'as peur des animaux, t'as peur de l'avion et t'as peur des bateaux. Ah bah dis donc.
Ouais,
t'as bien fait de partir en Hongrie, y a rien de tout ça, tu vas être super bien.
Ouais, Non, non, le vélo, pour moi, c'est sûr, c'est le meilleur moyen de voyager. On ne me fera pas changer d'avis. Hein.
Chacun est libre de faire comme il le sent. Bon, la Hungarian Divide, c'est quoi cette course ?
En fait, c'est une course qui est née de la Five Peaks 500. L'année dernière, donc, c'est l'organisateur, Marcel, qui est très actif sur... Donc il y a le site Bikepacking Hungary et qui est très actif dans les événements autour du vélo, pas seulement les grandes épreuves, mais aussi les petits camp-out, comme ils appellent ça, je crois que Rémi Quinquin appelle ça les flashpacking, ouais. Aller passer un week-end en forêt, et surtout la communauté hongroise est assez active au niveau du bikepacking, ou même du vélo en général. Et donc c'est né de cette épreuve là, qui a eu un grand succès, avec 50% de participants étrangers, bon, surtout les pays limitrophes, mais ça a eu un beau succès. Et puis l'idée donc de faire une épreuve encore plus ambitieuse, la Hungarian Divide, avec deux formats, le format court, donc c'était la half distance 600 km, qui partait de l'ouest du pays et qui arrivait à Budapest. Comme beaucoup de partants étaient de Budapest, c'était parfait pour découvrir l'ambiance bikepacking et sur 600 km. Bon, c'était quand même 10 000 mètres de dénivelé positif. Et puis il y avait la version longue distance pour les aventuriers un peu plus expérimentés. Pareil, départ commun de l'ouest du pays pour aller à l'est. Et on parcourait toute la partie nord de la Hongrie. Mmh. C'est réputé comme étant un pays plat, mais la partie nord est vraiment montagneuse. Même si le sommet de la Hongrie est situé à 1014 mètres d'altitude. Oh. Mais on a eu des bonnes ascensions quand même, avec au total 20 000 mètres de dénivelé. Mmh. Et, bah, d'ailleurs, il y avait pas mal de partants qui ont été un peu trop ambitieux sur leur temps, leur chrono, là, parce qu'ils pensaient parcourir les 1200 bornes en 4-5 jours. Et finalement, bah, même le vainqueur a mis 5 jours. Bah, il y avait un grand nom au départ, c'était Bagoli Levy, qui a fait deuxième de la Silk Road, je crois. Et donc, il y a plusieurs Hongrois qui cherchaient à le battre. Donc ça, c'était la partie, on va dire, course, ce qui se passait à l'avant. Et sinon, il y avait un peu de tout. Comme au départ de toutes les épreuves bikepacking, il y a des gens inexpérimentés, des gens qui n'ont pas forcément le bon vélo. Mmh. Bah, c'était mon cas l'année dernière aussi. Et puis, des gens qui sont là pour prendre du plaisir, pour découvrir le pays. Moi, c'était mon cas. En fait, ça m'a servi d'intégration aussi. J'ai rencontré tellement de personnes intéressante. J'ai eu beaucoup d'encouragement, hein, même quand j'étais sur le chemin pour venir en Hongrie. J'ai reçu pas mal d'encouragement et ça, c'était sympa.
Ça t'a fait combien de kilomètres Bretagne-Budapest?
Plus de 3000 kilomètres pour être au départ.
Ouais. Donc, heureusement que t'as pas loupé le départ. Hein,
3000 kilomètres en un mois, donc c'était... Ouais, c'était assez costaud, mais bon, j'ai essayé de me préserver. Hein. Je suis arrivé physiquement, ben, j'étais vraiment bien et pas trop fatigué. Mmh. Et j'ai bien géré cette partie-là. Bon, le seul souci, c'est que comme je suis venu avec mon vélo de voyage, et ben, j'ai dû prendre le départ avec mon vélo de voyage en enlevant les deux grosses sacoches. Mais j'avais le vélo le plus lourd. Avec le lot et la nourriture, j'étais presque à 30 kilos. Quoi. Donc ça, c'était le point négatif. Ouais. Je n'ai pas pu faire autrement que de m'adapter.
Est-ce que, avec l'expérience que tu as accumulée, justement, est-ce que le poids du vélo est vraiment un handicap ? Est-ce qu'il faut absolument courir, faire une course au poids ? Ou est-ce qu'avec l'expérience, ça peut aider ?
Bah, honnêtement, j'ai roulé avec des gens qui étaient en ultra light et ouais, on va dire que le poids, finalement, ouais, c'est handicapant, mais c'est surtout dans la tête, quoi. Quand on quand on commence à focaliser sur le poids, on perd ses moyens. Alors que quand je vois comment j'ai fini plus fort que j'ai commencé à l'épreuve. Mmh. Et je me dis, mais le vélo, finalement, il est. Ah, c'est bien, ça s'est bien passé. Évidemment, j'aurais bien aimé être plus léger, mais c'est pas si handicapant que ça. Si on. Sur de l'endurance.
Ouais. Si tu avais gagné, disons, entre 5 et 10 kilos, est-ce que c'est aussi. Tu aurais gagné quoi? À part un petit peu d'aisance au pilotage, un vélo un petit peu moins empoté, est-ce que tu serais vraiment allé beaucoup plus vite? D'ailleurs, au final, tu finis à quel classement?
Je suis 11e. Ouais, avec des gars qui ont vraiment l'expérience. Bah, y a une heure avant moi, il y a deux Tchèques qui terminent. Et il y en a un qui a parcouru, qui a fait la Hope 1000, qui a fait le Tour Divide. Eux qui étaient vraiment. Bon, ils n'étaient pas en mode course, hein, mais ils étaient beaucoup plus légers que moi. Et on a passé une journée ensemble. Dans les ascensions, ça se passait bien. C'est juste dans les, ouais, dans les descentes, j'avais pas le vélo. C'était un vélo de voyage, donc
C'est quoi? C'est un Focus, je crois, c'est ça?
Non, c'est, le 4, c'est un cube.
Ah oui, cube.
Mais voilà, le freinage, c'est. On va dire que c'est entre le vélo de ville et. Enfin, le VTC et le vélo de voyage, quoi. Donc,
ouais, donc pas forcément le truc pour emmancher les descentes à fond la caisse.
Non, non, le vélo en lui-même fait 17 kilos, quoi. Voilà, c'est juste, voilà, juste un chiffre pour c'est assez parlant, quoi. On va dire,
c'est vrai que le vélo seul à 17, c'est pas mal.
Ouais, parce que mon vélo pour la French Divide a été préparé, donc le VTT carbone était à 10 kilos. À 16 kilos, je veux dire, avec tout équipé. Donc avec le 16 kilos, et j'avais un petit sac à dos de 3 kilos. Donc beaucoup plus maniable, le freinage, meilleur contrôle en descente, plus roulant aussi sur les parties asphaltées. Voilà, c'est tout, c'est une combinaison de tout là, qui fait gagner du temps, mais au final, comme c'est une épreuve où il faut gérer ses journées de 24 heures, bah, finalement, c'est pas si pénalisant que ça.
Est-ce que c'est l'intérêt, c'est de gagner du temps, ou est-ce que c'est de ne pas en perdre?
Voilà, c'est surtout dans le confort et dans la prise de risque. Là, les descentes, j'ai vraiment senti que c'était limite. Parfois, j'étais obligé de même descendre à pied. J'avais pas les freins, le freinage, j'avais pas confiance, les pneus, il y avait pas tout l'accroche que je voulais, le contrôle, le poste de pilotage, c'était pas ça non plus. Donc, c'est surtout au niveau du gagner en confort pour au final moins se fatiguer. Voilà, c'est surtout ça.
Parce que pour cette épreuve-là spécifiquement, imaginons, tu arrives en avion, tu ne viens faire que cette épreuve-là, qu'est-ce que tu aurais pris, quel vélo?
Celui de la French Divide. C'est vraiment les mêmes types de terrains. On a tout eu, du gravel, des champs de maïs, ça c'est de la boue, des descentes VTT empierrées, un peu d'asphalte, pas beaucoup. Donc c'est vraiment typé, tous les divides sont à peu près pareils. Donc je pense que soit un bon gravel monster cross ou un VTT relativement léger. Ouais.
Est-ce que tu souscris à l'analyse de Stéphane? Je sais pas si tu as écouté il y a 3 semaines, je crois, l'épisode avec Stéphane où, selon lui, l'avenir, le vélo idéal pour ces épreuves-là, c'est un tout suspendu.
Ah, tout suspendu, je dirais pas ça quand même.
Avec blocage des suspensions quand même, enfin classique quoi. Tu peux bloquer et là ça roule bien. Mais pour les descentes.
Pour moi, c'est important le triangle de cadre. C'est vraiment important de mettre. Pour la French Divide, j'avais quasiment tous mes bagages dans le triangle de cadre. Bon, j'ai la chance d'avoir un gros cadre, donc je peux y mettre plein de choses.
Bah oui, parce que t'es très grand. Donc,
ouais. Mais sur un tout suspendu, justement, moi j'aime bien avoir le poids bien centré. J'avais quasiment rien sous la selle et rien à l'avant, au guidon. Par contre, j'aimais bien aussi la fourche suspendue où je pouvais mettre mes bidons. Ouais. Donc j'avais 1,5 litre d'eau à l'avant, facile d'accès. Et ça, c'est l'avantage. Ouais, c'était pas mal. Mais tout suspendu, j'irai pas jusque-là, non.
Sur la Hongrie, pendant l'épreuve, comment s'est passé le, entre guillemets, le décalage culturel au niveau de l'alimentation? Parce que bah, forcément, autre pays, autre culture, on ne mange pas pareil.
Non.
On y mange quoi là-bas, déjà?
Ils ont une alimentation assez riche.
Les spécialités, c'est quoi?
Ah, bah c'est assez riche. Hein. Il y a le langoche, ça c'était des petits pains, enfin une pâte à pain cuite dans l'huile où on peut rajouter ce qu'on veut dessus, donc fromage, chorizo, bacon, crème fraîche, voilà. Ça, voilà, c'est pour te dire. Ça j'en ai mangé trois avant le départ, enfin la veille du départ.
Oui.
Et ouais, ça m'a donné pas mal d'énergie. Après, il y a beaucoup de le paprika, c'est l'épice reine ici, qui cuisine beaucoup avec le paprika. Et il y a des soupes aussi, comme le gouillache. Je vais essayer de bien le prononcer, hein, parce que j'essaie d'apprendre le hongrois en ce moment.
Bah oui.
Et ce qui est pas facile. C'est une des langues les plus difficiles à apprendre. Et oui, ça c'est en général c'est assez riche l'alimentation hongroise, donc parfait pour le bikepacking, un peu moins quand on arrête de faire du sport. Mais non, il y a pas eu de soucis d'alimentation. Ouais. Il y a des boulangeries. C'était assez facile de s'alimenter. Puis évidemment les pompes à eau, il y a des pompes bleues dans chaque village avec l'eau courante. Non, enfin l'eau potable. Et ça, c'était vraiment le troisième jour, il a fait vraiment chaud. On était tous à la recherche d'eau. Et ça, c'est vraiment le point positif. Ça, c'est il y a de l'eau partout.
Pour remplir les bidons, ça doit être vraiment appréciable. Comparé par exemple à la French Divide où ils ont rôti et que la chasse à la canette devient un peu difficile.
Non, là, chaque village, ses pompes à eau, on peut se prendre une petite douche, enfin au moins se rafraîchir la tête. Ouais, c'était parfait. Ouais. Et puis la nuit, finalement, les températures étaient assez agréables pour dormir. Donc. On a eu une belle météo.
Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que t'emmènes ta petite tente, toi.
Oui, tout confort. Hein.
Ah oui, on en parlait tout à l'heure, mais oui, en plus, toi, c'est même pas le bivouac de Sauvageon dans un fossé. Toi, non, c'est carrément tente. La petite tente et tout, hein, avec l'écran plat, le réveil.
Tente, matelas, duvet, petit oreiller, c'est grand confort.
Ton doudou
Non, pour mon doudou, c'est mon smartphone pour regarder un petit peu. Avant de m'endormir, j'aime bien regarder un peu les positions. C'était marrant de parfois cette nuit d'entendre les concurrents passer à 2-3 heures du matin, éclairer la tente avec leur lumière.
Tu te dis quoi à ce moment-là? Tu te dis, putain, les autres ils roulent et moi je suis en train de ronquer. Je dors.
Non, comme sur la French Divide, rester sur son plan initial.
Ouais.
Voilà, sauf les deux derniers jours, j'ai changé mes plans parce que je pensais finir en trois jours. Il restait 410 kilomètres. Et finalement, comme je me sentais bien, j'ai fait 200 kilomètres la première journée, 4 heures de sommeil et je suis reparti pour 200 kilomètres. Et donc, j'ai terminé ça en deux jours. Et c'est là où j'étais assez satisfait de moi. Finalement, j'ai mis 6 jours et demi. Ouais.
Est-ce que tu peux développer le côté, comme tu viens de dire, rester sur le plan que l'on avait prévu? Sous-entendu, ne pas se laisser influencer par la course des autres, mais faire sa propre course.
Ouais, j'ai vu ça, c'est vraiment important, je pense. Sur la French Divide, la première journée, c'est super bien passé. J'ai fait 275 km et il était finalement que 9h du soir. Quand je me suis posé, j'ai hésité quelques secondes. Je me suis dit, est-ce que je poursuis, est-ce que je passe les 300 Et puis finalement, bah, j'ai bien fait de m'arrêter, de passer de bonnes nuits, de repartir tôt le matin en pleine forme. Mmh. Et bah, je trouve ça super important de, bah, de s'imaginer. Après, évidemment, il peut y avoir des imprévus. Mais de... parce qu'on, c'est une course contre, enfin c'est pas une course, mais c'est voilà, c'est une épreuve contre soi-même. C'est, on va l'influence qu'on, ouais, faut pas se laisser influencer par les autres, par la position des autres. Mmh. Ça peut... chaque décision qu'on prend, c'est la sienne, et on doit, voilà, on doit être responsable de ces décisions. Et si on se laisse influencer, bah, après on peut le regretter et dire ah non, ça j'ai fait une erreur, mais
ça peut être quoi comme, comme mauvaise décision, partir avec des mecs et négliger de manger, de boire, de s'arrêter, refaire le plein. Ça peut être
rater un ravitaillement en pensant que ah, allez, je vais trouver un ravitailler plus tard. Ou... Alors, on peut vite se retrouver dans une position délicate, hein, surtout si le lendemain c'est un jour férié, par exemple, on est oublié de faire des réserves. Ça peut avoir quand même des grosses conséquences, hein, de suivre des gars, de pas prendre le temps de bien s'alimenter, de faire des réserves, de prévoir, et puis de se retrouver un jour férié où tous les magasins sont fermés. Ouais. Non, c'est pas bon. Hein. Allez,
Et la gestion du au départ, on sait que ça part un petit peu vite. Il y a l'excitation, l'effet de groupe. Tu fais comment, toi?
Généralement, les deux premières heures, je réfléchis pas trop. D'être dans l'ambiance du départ, évidemment, ça part à fond, hein, comme toutes les épreuves. Les deux premières heures, je me dis ouais, tant pis, je crame un peu d'énergie, mais voilà, je fais au moins 2 heures, un peu en sur-régime, mais au moins je suis dans l'ambiance, il y a l'excitation, l'adrénaline, donc je réfléchis pas trop. Puis après, à bout de 2 heures, voilà, je commence à prendre mon rythme, à penser à moi. Voilà, c'est comme ça que je vois le départ.
Bon, quand tu dis à fond, c'est vraiment à fond, les mains en bas du guidon, enfin, sauf que toi, tu as un guidon plat, mais c'est ambiance course, comme on l'a connu en peloton. Ou c'est une allure vraiment soutenue. Ou c'est à bloc et soufflé avec le filet de bave.
Ah non, à fond. Bah, la French Divide, c'était départ. Il y avait ça bordurait. C'était des groupes de 4-5. Derrière, il y avait un groupe de 4-5. Il y avait un vent latéral. C'était même chaud parce qu'on essaie de garder la roue et on fait. Bah, on peut se taper un trou. Une ornière, voilà. Il a failli avoir de la casse mécanique un premier jour à cause de ça. Et là, c'est pareil, les parties techniques, ça se passe à bloc et à la boue. C'est 2 heures, mais bon, compte tenu de l'excitation du départ, l'adrénaline, voilà, c'est un peu dur d'échapper à ça.
Et sur après au final, ça se dilue comment? Là, tu l'as dit tout à l'heure, toi tu prends ton rythme. Comment finissent ceux qui partent à bloc, tu les retrouves un petit peu plus loin en carafe dans un fossé?
Ah mais des fois oui, carrément. Ouais. Oui. Ah bah là j'ai retrouvé une connaissance. On s'était vu avant la course sur Budapest. On avait partagé quelques bières et il me parlait de ses ambitions pour la course. Et finalement, bon, il est parti à fond. Il n'a pas dormi la première nuit. Et je l'ai rattrapé au bout de 4 jours. Mmh. Il était à un arrêt de bus et il commandait une pizza. Il était en détresse, quoi. Il était là à un arrêt de bus, fatigué, ouais, le regard vide. Et il passait commande pour une pizza. Et ouais, c'était un peu triste de voir ça parce que... Finalement, en plus, il a eu un problème mécanique à 80 km de l'arrivée et il a pas fini la longue distance. Quoi. Il a pas fini l'épreuve. Il est rentré par la route. Quoi.
Cet incident mécanique, c'est vraiment, comme on dit, la faute à pas de chance ou c'est l'accumulation de mauvaises décisions, on va dire, et d'une ambition peut-être trop élevée pour un manque d'expérience.
Ouais, bah, il y a surtout le, moi je vois, c'est le, les rapports, quoi, le, les développements utilisés, bah, choisis avant l'épreuve. Quoi. C'est, ouais. Je trouve ça hallucinant de, d'avoir un rapport de 1. C'était genre un 30-30. Donc, je sais pas, c'est pour des épreuves gravel, ouais, d'une journée, ça peut passer, quoi. La maltaignie, je pense que ça peut passer, mais sur des épreuves de, d'une semaine, on essaye de préserver, de se préserver musculairement et de préserver la mécanique aussi.
Ouais. Ouais.
Moi, j'aime bien avoir des petits rapports, des petits braquets, et monter en souplesse. Ouais. Non, là, après, bon, c'est aussi pas de chance, mais voilà, c'est un peu des deux. Forcer comme ça sur la mécanique avec des gros braquets. Et... Voilà, c'est. Mais la conclusion, c'est que même si on a des problèmes mécaniques, il faut quand même tout tenter pour aller à l'arrivée. Là, il restait 80 km. Moi, j'aurais marché pendant 2 jours. Enfin, il n'y avait aucun souci avec ça. J'aurais tout donné.
Bah, on le voit sur la vue sur, je ne sais plus comment, bah, la Hope Mill. Le mec qui gagne, il a fini avec un vélo emprunté à une dame.
Ouais. Non, mais il faut pas s'arrêter à... Ouais, dès le moindre problème, faut pas se dire bon allez c'est fini, j'abandonne. Surtout qu'on était là, on l'a encouragé, on lui a envoyé des messages. Allez, 80 km, tout ce qui est plat, descente, ça peut se faire en pignon fixe, en raccourcissant la chaîne et en single speed. Et après, bon, les montées, ça se fait à pied, mais ouais, c'est dommage.
Et il était au bout, certainement. Et quand on est au bout, on a plus
envie. Je connais cet état-là, mais ouais. C'est dommage. Je pense qu'il va le regretter.
Bah, il fera mieux la prochaine fois. Et pareil, ouais, sur la Gravel Trobreuse l'année dernière, Vincent Mounia qui achète un nouveau vélo. Il pète son vélo, il va chez un vélociste en acheter un autre.
Ah oui.
Respect, Vincent.
Ouais. Bravo, un petit coucou.
Ouais, un beau coucou même à Vincent.
Non, il est vraiment super sympa. Ouais. Bah, c'est ça aussi, c'est retrouver sur les épreuves. Il y a de plus en plus d'épreuves, mais finalement, on arrive quand même à se retrouver sur les épreuves. Ça, c'est vraiment, l'ambiance est vraiment géniale. Bon, là, c'était la première édition de le Hungarian Divide. J'étais le seul Français. Quasiment, parce qu'il y avait un Espagnol et un Japonais au départ, mais ils vivaient à Budapest. Sinon, il y avait des Tchèques, quelques Tchèques, Roumains, tous les pays, les pays limitrophes, hein. On va dire. Mais venant d'aussi loin, ouais, j'étais le seul.
Tu me disais que, bon, bah là, tu viens de le dire, l'ambiance était assez cosmopolite, avec pas mal de nationalités et pas mal de monde venant des pays autour. Les pays autour sont lesquels ? Parce que là, je cale un petit peu sur la géographie. Alors, je vais regarder en même temps que je te pose la question, ouais, quand même.
Il y a Slovaquie, l'Ukraine à l'est, Roumanie.
Ouais. Donc, si on part.
Slovénie.
Croatie, Autriche, Slovaquie. Un petit bout d'Ukraine, effectivement, un petit bout de Roumanie, un petit bout de Serbie.
Serbie, oui.
Et non, bah là, c'est juste la Croatie après.
On est vraiment en Europe centrale.
Ouais. Et tu me disais, ça bouge pas mal au niveau bikepacking et gravel en Hongrie, en Roumanie. On a, à moins de s'y intéresser de très près, ce que je vais faire après. C'est bête, mais on a du mal à imaginer que ça roule à mort dans ces pays. Est-ce que c'est le cas ou t'as eu de la chance et de voir quelques mecs?
Je suis sur les groupes Strava, Facebook, Bikepacking Hungary. Les gens prennent leur vélo, hein, ils font des belles balades. Après, il y a tout l'aspect aussi livraison de nourriture, là, food delivery. Il y a pas mal de participants qui sont livreurs à vélo ou même des organisations de charité qui aident les plus pauvres. Donc il y a des groupes comme ça qui se montent autour du vélo.
Ouais.
Et c'est assez actif. Ouais. À Budapest. Ouais.
Ouais. Donc tu vas rejoindre des groupes. Il y a des cafés vélo à Budapest. T'as déjà repéré un petit peu toute l'ambiance?
Ouais, un peu. Ouais, c'est ça. Il y a pas mal de magasins de cycles.
Tu notes quelle différence avec ce que tu connais en France, par exemple? Niveau de, je sais pas moi, de l'achalandage, de l'ambiance dans les magasins, dans la manière de, ouais, je sais pas, de rouler ou la manière de s'habiller, ils font comment là-bas? Tu notes quelle différence?
J'ai pas tant que ça de différence. Hein.
Autre pays, autre culture, donc on peut s'attendre à une différence.
Par contre, j'ai noté, les automobilistes font vraiment respectent les cyclistes, hein, ils font attention, ils nous laissent passer à toutes les intersections, ils sont prudents quand ils doublent.
Tu mens.
Ça, c'est appréciable. Non.
Je suis sûr que tu mens, c'est pas vrai.
Ah non, c'est vraiment appréciable. Non, je te jure.
Ils roulent mieux que les Bretons?
Oui. C'est un peu comparable aux Espagnols. Ils laissent vraiment de la distance. J'étais agréablement surpris. Hein. Même les Hongrois, on dit que c'est un peuple froid. Et franchement, j'ai eu un bon accueil, même dans les... Cette épreuve me servait d'intégration en même temps et de découverte du pays, et je suis pas déçu.
Tu regrettes pas ton choix alors? Pas du tout.
Ah non, pas du
Au
tout.
Au contraire.
Et même professionnellement, il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent à moi déjà à Budapest. Et c'est ça qui est bien. Ouais, non, j'ai fait plein de rencontres et c'est un bon départ.
Ouais. Cool. Si on reste sur le vélo, là, quelle est la météo pour les semaines à venir globalement? La météo va se refroidir ou vous allez avoir un bel automne? Tu comptes continuer à rouler un peu?
Je ne sais pas. Je vais utiliser mon vélo à Budapest comme moyen de transport.
Ouais.
Mais sinon, le mois de septembre, ça va être calme. Hein. Au niveau des sorties, ils organisent un camp out, comme ils disent. Une petite sortie en forêt là, le 20 septembre. Mais j'ai décliné l'invitation. Hein. Je vais voir. Non, là, il faut que je me concentre sur le travail.
Oui.
Et puis, par contre, il y a des pistes cyclables partout à Budapest. C'est assez agréable d'y circuler. Bon, c'est la ville. Hein. Faut se slalomer entre les voitures, ça c'est clair.
Si les voitures sont respectueuses, ça va plutôt pas mal.
En ville, c'est quand même c'est un peu le chaos quand même. Puis surtout les sens interdits, ouais, les sens uniques et tout ça, c'est faut bien repérer parce qu'on est vite enfermé dans une rue. Voilà, pour circuler, j'ai encore un petit temps d'adaptation.
Ouais. Et pour 2021, tu me l'as un petit peu dit tout à l'heure, tu prévois quoi?
Idéalement, j'aimerais bien l'Atlas Mountain Race et Tour Divide. Donc c'est février et juin. Ouais. Bon, après, est-ce que ça va correspondre avec mon planning professionnel? Ça, c'est pas sûr.
Ouais.
Mais bon, c'est dans un coin de ma tête en tout cas.
Bon, mon petit Vincent, je crois qu'on a fait le tour.
Ouais.
Tu vois quelque chose d'autre à ajouter?
Non, je crois que c'est tout. Je ferai un récit sur Spotzel et puis j'ai une vidéo en cours de montage là.
D'accord.
J'ai pris le temps de filmer. Et donc on va avoir des belles images de la Hongrie.
Cool. Bon, est-ce que tu veux un scoop?
Vas-y. Ouais.
Alors, dans 3 semaines. Le nouveau site, la nouvelle version de Spotzel sera en ligne. Et les récits vont devenir un petit peu, pas en retrait, mais ne seront plus le truc principal de Spotzel. Donc il y aura toujours des récits. Là, c'était une maquette, enfin pas une maquette, mais un prototype que j'avais fait tout seul. Donc c'était un petit peu compliqué de publier totalement en autonomie. Il fallait m'envoyer les photos et je le faisais.
Oui.
Maintenant, il faudra m'envoyer le tout. Par ce que vous voulez, par mail ou par messenger, et il y a que moi qui aura la main sur les récits. En revanche, ça veut pas dire que je ferai une sélection drastique. Chacun pourra envoyer ce qu'il veut, c'est pas un problème. Par contre, là où vous allez avoir tous totale autonomie, c'est sur la création, le partage et la recherche de parcours. Donc, grâce à Vincent, l'incroyable Vincent, pas toi, mais l'autre, le développeur, on a décidé de changer complètement d'orientation. Et, enfin, pas complètement d'orientation, mais de s'orienter vers la recherche de parcours et le partage. Parce qu'on, dans l'été, on a eu plusieurs, moi en tout cas, j'ai eu plusieurs messages me demandant comment je retrouvais mes parcours. Et je me suis dit, bah merde, il y a peut-être un truc à faire avec ça finalement. Donc on est en train de finir la nouvelle plateforme. C'est très beau. C'est super, super pratique pour partager et télécharger un GPX. Donc tu pourras m'envoyer ton récit de la Hungarian Divide, je le mettrai en ligne avec grand plaisir, comme vous tous. Mais surtout, tu pourras alimenter en parcours gravel et bikepacking autour de la Hongrie, autour de Budapest si tu en as. Et comme vous tous d'ailleurs, maintenant vous allez pouvoir alimenter et surtout retrouver des parcours. Moi, je vais en balancer aussi pas mal parce que j'ai finalement pas mal de parcours de l'année dernière en gravel à travers la France. Et voilà, c'est ça le scoop. Et il y aurait également, c'est pas un immense scoop, mais bon, voilà, ça fait plaisir de l'annoncer quand même. Et il y aurait également un petit peu plus de présentation de matériel. Bon là, malheureusement, le Rock d'Azur, j'ai appris hier qu'il est annulé. Je ne sais pas si je vais pouvoir aller au Vélo Vert Festival. Et je n'ai pas de passe pour les Pro Days. Donc pour aller démarcher les autres marques et faire un peu de présentation de matériel. Uniquement présentation, pas test. Parce que je trouve ça complètement nul de dire j'ai fait 45 km avec un vélo. Ah bah il est bien, hein, dis donc. Hein. Ah bah c'est un bon vélo, il est à 6000 euros. C'est peut-être un peu cher, mais il relance bien dans les virages. Ah bah tu m'étonnes. Ouais. Ouais. Ah bah tu m'étonnes. Ah puis j'ai essayé le dernier Trimad à 600 euros. Bah finalement c'est un bon vélo. Bah évidemment que c'est un bon vélo. Ouais. Enfin je veux dire il y a à part de rares exceptions en 2021, 2020, 2021 il y a plus de mauvais vélos. Il y a juste des vélos adaptés à un mec ou une nana et à un usage. Mais il y a plus de mauvais vélos. Donc le concept de test. Et de ressenti complètement subjectif sur du matériel, non. Donc, ça sera une présentation un petit peu à la Vojo, et ça sera, je pense, beaucoup plus pertinent. Voilà. Qu'en penses-tu ?
Ouais, bah c'est très bien. Ça va dans le bon sens. Ouais. Je me rappelle, j'avais fait un 400 km, le parcours d'un 400 km sur Komoot, je l'avais fait. Et j'ai essayé de trouver du monde pour rouler sur ce 400 en Bretagne, hein. Mais c'est un parcours magnifique et je le partagerai avec plaisir sur ce parcours.
Oui, je me souviens, puis tu avais fait un super truc au Mont-Saint-Michel également.
Oui, il y a ça aussi, la traversée de la Bretagne en diagonale. Bon, on a la chance d'avoir beaucoup de voies vertes. Je serais heureux de partager ça sur ce podcast.
Avant de te laisser repartir à la chasse à la hongroise, j'aimerais bien que tu me parles de l'Iran quand même, parce que j'avais fait un épisode avec Pierre Gouillot-Beauchamp qui a longuement voyagé en Iran également. Et pour le moment, ça reste le pays qui me résiste, et j'aimerais bien que tu m'en parles un petit peu uniquement pour me faire baver.
Ah oui, bah c'est un pays merveilleux, surtout à vélo. C'est l'accueil a été incroyable. J'ai passé la frontière en Arménie, entre l'Arménie et l'Iran. Et dès les premiers tours de roue en Iran, c'était incroyable. Et les gens sont généreux, souriants. Ils donnent tout, en fait. Au bord de la route, ils nous donnaient des fruits. Donc la première ville où je me suis posé, j'ai rencontré un Français et on a parcouru l'Iran ensemble. Et donc, on a vécu une expérience incroyable. L'un comme l'autre, on s'est dit, mais on est dans un rêve, quoi. Les gens nous donnent des fruits, nous invitent chez eux, on partage les repas. J'ai même eu connaissance d'un cycliste qui s'était fait inviter à un mariage, comme ça. Donc, imagine le cycliste en short et en tongs qui passe deux jours à un mariage iranien. Vraiment, il y a cette culture.
Alors ça nous est arrivé aussi en Birmanie un matin avec ma femme. Il était, je sais plus, 4 heures, il continuait à danser, nous on était à côté. et on est sorti voir ce que c'était ce bordel. Et finalement, bah, c'était un mariage et ils nous ont dit de rentrer. Puis on a bouffé avec eux, on a passé une partie de la matinée et voilà. Et c'était plutôt drôle. Et j'imagine mal la même chose en France quand même. Ouais.
Non.
Tu dis, quand t'as passé la frontière iranienne, ça veut dire que l'arménien n'est pas sympa ? Ou c'est vraiment différent ?
Non, justement, moi j'ai bien apprécié ce passage de frontière. Il y a moyen de rentrer par la Turquie. Mais j'avais choisi de faire la Turquie, Géorgie, Arménie et Iran. Et je ne regrette pas du tout mon choix d'être passé par le Caucase. Et c'était... Non, justement, c'est... Géorgie, Arménie, Iran, pour moi, c'était une super route pour rentrer. Bon, c'est montagneux, hein, c'est sûr. Ouais. Il y a des passages à plus de 2000 mètres. Mais ensuite, j'ai rejoint la mer Caspienne. Et là c'est pareil, l'ambiance est différente de la montagne. Mais toujours aussi sympa, les Iraniens. Et la dernière partie avant Téhéran, on passe de moins 28 mètres, donc ce qui est le niveau de la mer Caspienne, à 3228 mètres. Le passage du col pour ensuite plonger sur Téhéran, une ville de 15 millions d'habitants. Donc là, c'est la jungle urbaine. Et j'ai cette photo, je me souviens, la place Azadi, avec le grand monument central de Téhéran, et où je me rappelle prendre cette photo, et c'était vraiment marquant, quoi. Ça symbolisait la fin de mon voyage, mais c'est pas la fin de ma relation avec l'Iran, parce que j'ai quand même promis d'y retourner, et même à côté de chez moi, à Budapest, là, il y a un Iranien francophone qui vend des épices, des herbes, des noix en provenance d'Iran. Et on a sympathisé hier, donc ça me rattache encore à l'Iran.
Il me semble que, alors pas l'iranien, parce que ça, c'est toujours difficile de faire une généralité, mais en tout cas, les Téhéranis, beaucoup parlent français, pas par attache française. Ou par présence française en Iran, mais simplement par curiosité culturelle.
Ah oui, bah c'est un peuple éduqué. Hein. L'accès à l'université, hein, des plus, enfin, je crois que c'est le plus élevé au monde, hein, pour l'accession à l'université. Et ils ont, oui, cet engouement pour la culture française. Donc c'est bien de voir ça aussi.
Ouais. Ouais, c'est un peuple éclairé, alors religieusement pas hyper éclairé, c'est un peu les ténèbres, mais ils ont quand même une tradition, c'est un peuple ancestral quand même. Hein.
C'est la civilisation perse, hein. Moi j'ai visité Persépolis,
oh là là.
C'est magnifique, on revient 3000 ans en arrière, et c'est une grande civilisation.
Ouais.
C'est un pays qui produit, en plus, ce que j'aime, c'est qu'ils produisent tout ce qu'ils consomment, ils le produisent, compte tenu de l'embargo qu'ils subissent, ils sont obligés, en termes de nourriture, ils produisent tout, le miel, le riz, la confiture de rose, c'est magnifique, ouais. Tous les fruits, légumes, c'est à faire. L'Iran, c'est à visiter.
Bon, écoute, tu sais quoi, hein, je pense que ça sera le programme de l'année prochaine.
Ils ont facilité l'accès. En plus, si tu prends l'avion, ils te font le visa à l'arrivée à l'aéroport. Les visas électroniques, maintenant.
T'avais fait quelle ville ? Donc, t'as fait Téhéran, t'es passé par l'Arménie, donc tu es passé par Tabriz, je suppose.
Oui, ouais. Ouais. Tabriz, Ardabil... toute la mer Caspienne, Téhéran, et ensuite je suis redevenu touriste, et là je suis parti à Shiraz, Isfahan,
ouais,
le sud.
C'est ce que j'allais te demander, ouais.
Ouais. Shiraz, oui, c'est la ville. C'est là qu'on part en excursion vers Persépolis, découvrir le désert aussi.
Alors pour ceux qui seraient curieux, je recommande le dessin animé Persépolis. Enfin, c'est pas un dessin animé, c'est plutôt un film d'animation sur la révolution iranienne dans les années 70, et c'est vraiment super, super cool. Et un autre film qui s'appelle Les Chats Persans, sur le rock et métal indépendant à Téhéran. Et c'est super cool. C'est super cool. Ouais. Vraiment super intéressant. Bon, mon petit Vincent, tu sais ce qui t'attend maintenant ? C'est la fin ?
Non. Ah oui, la minute. Oh là là.
Ah, oh là là.
Ah, tu l'avais pas. Pourtant, j'en ai écouté des podcasts. Hein.
Mais maintenant c'est ton tour. Voilà, t'as voulu. Maintenant, t'y vas. Donc, mon petit Vincent.
Que ferait Sofiane pendant cette minute?
Sofiane, il fait ce qu'il veut, mais.
C'est tellement un entertainer avec un.
Ah, mais il y a pas que lui. Stéphane qui. Stéphane, il est génial. Sofiane, il est fantastique. Oui. Et toi, tu n'en es pas moins meilleur. Donc, chacun son style. Après, on accroche, on adhère ou pas. Mais il n'y a pas de. Je me refuse à faire un classement dans la minute de solitude.
Ouais. Voilà.
Donc, je te laisse. Mon loulou, à bientôt. Je te souhaite vraiment tout le meilleur à Budapest et avec les Hongroises. Vraiment.
Oui.
Ou avec une autre nationalité, peu importe. Hein,
Merci. C'est cool. Ouais.
Quand même.
Réussite professionnelle d'abord.
Établis ta boîte et puis après, et puis voilà. Et puis, très bientôt. Merci. Et voilà. À toi maintenant.
Merci à toi. Alors.
Allez, c'est parti. Je pose mon micro. Ouais. Attends un instant. Grosse bise. À plus.
Oui, salut, Richard. Donc, pour cette minute de solitude, alors je vais parler tout simplement du vélo. Hein. C'est en moi depuis des années. J'ai commencé quand j'avais 2 ans, je pense. Et c'est devenu une manière de se déplacer, mais aussi une manière de vivre. Aller partir à la rencontre des gens partout sur la planète. Et je voudrais dire que pour moi, c'est le meilleur moyen de voyager, d'aller à la rencontre des gens. Et le retour qu'on a, la perception qu'ont les gens du cycliste, du voyageur, elle est exceptionnelle dans le monde. J'ai jamais rencontré de problème. J'ai toujours été bien accueilli partout, que ce soit en Amérique du Sud, en Asie, sur le continent africain, en Europe. Et ça, je suis persuadé que c'est grâce au vélo. On arrive en paix, on va dire, ouvert à la rencontre. Et en plus, tous les sens, quand on roule, quand on est dans la nature, tous nos sens sont actifs. Il n'y a pas meilleur moyen de se connecter avec la nature et c'est un mode de vie, oui. Donc certains utilisent leur vélo pour aller travailler, certains c'est leur outil de travail, d'autres voyagent, s'évadent. C'est aussi une sorte de méditation. Pour moi, ça aide à résoudre pas mal de problèmes du quotidien. Et pour tout ça, je remercie mon père d'ailleurs d'avoir fait découvrir le vélo. On est une famille de cyclistes, oui. Et ça c'est important. Voilà, je pense conclure sur ces mots. Bonne route à tous. Ciao.